Vous écoutez
RMC. RMC, la une des grandes gueules du sport.
Avec un passage le plus compliqué à 9%, et là Tadej Pogacar avec Mathieu Van Der Poel dans ses roues et Mats Pedersen une nouvelle fois décroché dans ce mont pavé.
Rien à l'horizon, Masserane, c'était mon cher Pierre-Yves.
Non, t'as voulu voir Vierzon, on voit Vierzon.
Voilà, c'est déjà pas mal, on voit du paysage.
Oh, c'est le moment, une petite sieste.
Michael Matthews est costaud à la lutte avec Van Aert qui s'impose ici devant Michael Matthews et Pogacar.
Oh mon dieu, j'en ai des frissons.
On nous annonçait une étape ensoleillée avec potentiellement des bordures, alors on va avoir une étape pluvieuse avec rien du tout. Génial.
Je crois que je ferai une petite sieste.
Oh, ça y est, Tadej Pogacar, oh, il semble renoncer. Mathieu Van Der Poel qui baisse la tête.
Oh, j'en ai la chair de poule.
C'est l'heure du goûter dans le peloton. Thomas Gachignard est tout seul devant.
Bah oui, c'est l'heure du goûter. Comme ils vont arriver à l'heure du souper, il vaut mieux
manger
maintenant, quoi.
Plus que temps que j'aille faire ma sieste, mes amis.
C'est rien qu'aller énerver ce vélo qui fait que tomber. C'est quand même très énervant.
Et oui, on va parler de vélo dans les grandes gueules du sport ce matin, puisqu'il y a un événement sur RMC. Vous l'avez compris, Paris-Roubaix, la reine des classiques à suivre en direct. On suivra aussi et on en parlera avec Maria Azé qui est déjà à Roubaix. Du Paris-Roubaix féminin ce matin, avec donc chez les garçons pour la première fois la présence de Tadej Pogacar, le Slovène vainqueur sortant sur le Tour de France, va tenter d'entrer un peu plus dans la légende sur un terrain risqué. C'est la première fois depuis 34 ans qu'un vainqueur du Tour se présente dans l'enfer du Nord, et sa présence évidemment promet une course indécise et un nouveau duel au sommet, notamment face à Mathieu Van Der Poel. D'où cette question, les GG ce matin. Ce Paris-Roubaix 2025 est-il plus excitant que le Tour de France ? Oui ou non ? Pascal Duprat ?
Oui.
Christophe Cessieux ?
Oui.
Denis Charvet ?
Non.
Marc Madiot ?
Oui.
Ah, Denis Charvet, bon courage. C'est l'acte 3.
Il a essayé de nous retourner hier, mais il a
fait un géant. J'ai honte ou pour eux, François ?
Oui, on va en parler.
Parce que tu n'es jamais venu.
Non, mais comparer le classique avec le Tour de France.
Tu devrais venir. Tu vas. Tu verras un peu.
Je vais venir demain.
C'est l'acte 3, en tout cas, d'un combat Pogacar-Van Der Poel. On rappelle juste pour ceux qui nous écoutent que Pogacar a battu le Hollandais lors du Tour des Flandres la semaine dernière. Il y a eu Milan-San Remo, une autre classique, un peu plus tôt dans la saison. Et c'est Van Der Poel, cette fois, qui avait dominé le Slovène. Donc c'est un nouveau sommet et un nouveau duel qui promet beaucoup. On n'oublie pas non plus quand même qu'il y a les gros bras du peloton qui sont là aussi. On aura l'occasion d'en parler. Mats Pedersen, encore Van Aert, qui ne veulent plus se contenter des miettes. Alors, est-ce que c'est plus excitant que le Tour de France, Christophe ? Toi, tu as dit oui.
Oui, enfin, ce Paris-Roubaix est là, bien de et ce Tour de France qui s'annonce. Hein. Attention, hein, je dis pas que dans l'absolu, bah, le Paris-Roubaix est plus excitant que le Tour de France. Mais cette année, c'est vrai que c'est exceptionnel. Et je pense que...
Moi, on m'a pas dit que c'est cette année, moi. Mais non, m'avait dit cette année, peut-être que je redis oui.
Il faut décrypter les questions.
Non,
t'as pas fait d'études. Avant d'attaquer une dissertation, il faut d'abord bien lire les études.
Dans la façon dont tu t'exprimes, t'as envie de te fâcher avec personne.
Oui, voilà.
C'est vrai. Pas fâché avec le Tour de
exactement.
France.
Exactement.
Oui, Paris-Roubaix.
Exactement.
Paris-Roubaix,
même Bravo. Parce que pour Marc, Paris-Roubaix, c'est au-dessus de toutes les courses.
Non, mais je vais m'expliquer.
Je trouve que ce Paris-Roubaix-là est le plus excitant qu'on ait jamais connu. Moi, de voir un vainqueur du Tour qui s'aligne avec l'intention de le gagner, j'ai pas connu ça. Si, j'étais petit quand Bernard Hinault s'alignait ou Eddy Merckx. Mais voir un garçon qui est pas fait. Oui, mais enfin,
Il n'y allait pas pour gagner.
Ouais. Enfin, bref, c'était il y a longtemps. Moi, en 90, j'étais encore un jeune homme, contrairement à vous. Donc, je vous dis que ce Paris-Roubaix m'excite parce que c'est un peu comme dans toutes les disciplines. Quand le combat est indécis, c'est vachement plus beau. Quand le PSG éclate la Ligue 1, moi, ça m'intéresse pas. Mais quand le PSG se mesure et bat des grands clubs européens, c'est excitant. Et là, c'est pareil. Là, on a 2, 3, 4 mecs qui sont capables de gagner ce Paris-Roubaix. Et et en plus, c'est que les fantastiques, les Van Der Poel, les Van Aert, les Pogacar, les Pedersen. Au départ du Tour, le Tour de l'année dernière, je suis désolé, mais il a été magnifique pour Pogacar, mais il a tellement écrasé la concurrence qu'on se dit que cette année, si c'est encore le cas, on va s'emmerder pendant 3 semaines.
Et puis, on s'ennuyait aussi l'an dernier, on a entendu la petite production, il y a des moments où
c'est aussi le Tour.
anticipé
le tour,
comme ça.
Ça ne peut pas être trois semaines de folie. Il y a aussi des journées de transition. Mais malheureusement, on doit faire de l'antenne aussi pendant 5 heures.
Mais toi, tu es excité parce que Pogacar a décidé de.
Exactement.
Mais tu es excité parce qu'un seul homme, un seul coureur a décidé.
Mais c'est pas n'importe quel coureur, Denis.
D'accord, mais c'est pas. Mais comment tu peux comparer le tour avec ses étapes de montagne, son histoire, son. Je sais pas, moi. Il y a un truc qui me dépasse.
Je te parle.
Évidemment que moi, je suis excité par la course de vin. Mais c'est pas pour ça que j'en fais quelque chose de plus grand que le Tour de France.
Mais c'est pas possible grand, pour moi. Excitant.
Non, même pas excitant.
Cette année.
Mais non, mais excitant. Mais l'année dernière,
on est à un point de bascule. Marc. Pour moi, on est à un point de bascule. Les classiques, et je vais englober San Remo, les Flandres, et à un degré moins de l'Est-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, on est dans ce qui correspond le mieux aux attentes d'un nouveau public aujourd'hui à travers les médias. Une journée non-stop sur une classique, c'est une montée en pression. On a la chance aussi d'avoir une génération de coureurs qui adore ce style de course, qui sont des punchers, qui sont des coureurs agressifs. Et on a tous les bons ingrédients pour avoir un spectacle extraordinaire et sensationnel. On a un petit peu un combat de boxe qui s'installe quelque part entre Van der Poel et Pogacar.
C'est un feuilleton qui va durer
la journée. C'est un one shot.
Ouais, voilà.
Et c'est ça qui correspond aux attentes du public d'aujourd'hui. S'il y a autant de monde sur le bord des routes autour des Flandres, c'est parce qu'il y a cet intérêt. Et quand on arrive sur le Tour de France, on est sur quelque chose de plus allongé, de plus progressif, et où sur les grands tours, il y a quand même beaucoup moins de surprises et beaucoup moins d'aléas qu'il ne peut y en avoir sur une classique.
Non, mais le scénario est écrit à l'avance, un petit peu, souvent.
Alors que sur les classiques, il y a une excitation, il y a une tension, il y a une adrénaline particulière. On sait qu'on est là pour une journée spéciale.
Oui.
Alors que sur un grand tour, il y a des moments particuliers, il y a des moments intenses, mais il y a aussi des moments de temps mort, logique et normal. Donc, ce qui fait que il y a un regain d'intérêt pour les classiques à cause de tout cela. On correspond à l'attente et au marché, quelque part, du sport, business. On correspond pleinement à tout ça avec des courses comme San Remo, les Flandres, ou voilà.
Mais grâce aussi à Pogacar, et c'est pour ça.
Pogacar, c'est
le côté médiatique. Pogacar, c'est les médias qui s'enflamme, Pogacar. C'est comme si c'était extraordinaire que Pogacar soit au départ de Paris-Roubaix. Pour moi, c'est pas extraordinaire.
Ça l'est devenu. Tu parlais de Lehmann, c'est 91, il y a 30 ans.
On a enfermé dans des cases. On a enfermé les coureurs.
Parce qu'il n'a pas voulu courir.
On a mis les gens dans des cases. Là, on a des coureurs qui aujourd'hui sortent des cases et qui prennent le départ de course.
Mais
pourquoi il vient pour ça? Parce qu'il vient pour s'amuser, il vient pour s'exciter. S'il reste dans son confort du tour, il va s'emmerder. Ouais. Même s'il gagne le tour, il va s'emmerder. Alors que là,
tout le monde ne le fait
pas. Là, aujourd'hui, à Compiègne, et toute la semaine qui a précédé, Pogacar, il est excité. Van der Poel, il est excité. Ils sont excités parce qu'il y a l'odeur de la lutte. Il y a
l'odeur de la castagne.
Et puis sang au Badcock. Van der Poel, c'est une méga star. Mm. Bon, on en parle un peu moins, un petit peu en France parce que c'est le petit-fils de Raymond Poulidor.
Ah bon?
Mais c'est, aux Pays-Bas, c'est une méga star. Ouais. Il se déplace en Lamborghini, il prend des jets privés. Enfin, voilà, c'est le sportif moderne, bling bling, tel qu'on l'imagine dans d'autres sports. Et en face de lui, il a un mec qui vit à Monaco, qui va au tournoi de tennis à Monaco et qui va arriver sur le terrain de son adversaire numéro un sur les classiques. Donc il y a tous les ingrédients et tous les ingrédients,
est-ce que c'est pour autant, est-ce que ça fait la différence entre le tour et une classique?
Vous allez voir les audiences. Surveillez bien les audiences de lundi par rapport à la journée de demain.
Mais tu sais qu'on a fait des, on a eu un pic d'audience. Nous sur RMC dans l'intégral sport le samedi après-midi, le jour de Milan-San Remo, la victoire de Van der Poel, tu as un pic d'audience de manière hallucinante, même en radio, ça fait la différence.
Il se passe un truc, Marc Madiot a parlé de bascule justement, tu partages Pascal, peut-être qu'on est justement à ce point de bascule.
Pas complètement avec ce que dit Marc, qui est extrêmement pertinent comme toujours, mais plutôt sur la même ligne que Christophe, et ça c'est suffisamment rare pour être souligné. Je suis vraiment aligné à Christophe. En fait, moi si vous voulez, si tu m'avais posé la question l'année dernière, je t'aurais dit sans aucun doute le Tour de France m'excite davantage que Paris-Roubaix. Mais mon excitation, elle prévaut parce qu'il va y avoir une castagne entre Pogacar qui est vainqueur en titre du Tour de France et qui s'aligne sur cette épreuve. Et ça fait l'excitation de tout le monde, j'en suis certain. Il y a aussi le fait que apparemment ils annoncent un temps pourri, donc ce qui
pas
gâte
temps,
rien.
Pas sûr.
Ouais,
pas
en
temps,
tout cas du vent. Ouais. Donc on va assister à un spectacle. Et là, oui, je te rejoins, Marc, parce que de la première minute, premier coup de pédale jusqu'à l'arrivée, on va être là pendu, en tout cas devant nos téléviseurs, ceux qui n'ont pas la chance comme Christophe d'être au bord de la route. Donc c'est pour ça aussi que ce Paris-Roubaix m'excite. Et puis les derniers Tours de France, bah c'est un mano à mano entre Vingegaard et Pogacar.
Au bout d'un moment,
j'ai plus de surprise en tant qu'amoureux du sport. J'ai plus de surprise parce que les favoris sont toujours au rendez-vous au Tour de France. Il y a plus de surprise et des étapes lancinantes aussi.
Je suis pas d'accord avec toi. Vingegaard, il a battu Pogacar. Pogacar a battu Vingegaard.
Attends, Denis, il y a aussi la personnalité, comme le disait Marc, la personnalité des lutteurs. Van der Poel et Pogacar, ils ont un véritable charisme que n'a pas
Vingegaard.
Après, on va pas le cracher sur sa personnalité parce que c'est un grand champion. Mais il est moins excitant que Van der Poel face à Pogacar.
Oui, c'est le seul qui a battu Pogacar, Vingegaard.
On n'est pas dans le même trip. Et là, on colle parfaitement à l'attente du public. Je le vois. Moi, j'ai un gamin qui a 14 ans. Demain, il va aller sur le bord des pavés pour voir la course. Il était autour des Flandres. Il m'a pas parlé de venir sur le Tour de France dans une étape de montagne.
Ça y est, il est mordu maintenant. Parce qu'au début, Mathis, il aimait pas trop le vélo.
Il s'intéresse. Et en fait, ce qui intéresse les jeunes téléspectateurs ou spectateurs tout court, c'est cette excitation, c'est ce moment où tout peut basculer à tout moment. C'est-à-dire que dans une course comme le Tour, comme Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, on se retrouve dans une course où vous pouvez être en situation de dominer, on a l'impression que vous allez gagner et puis patatras, il y a ou crevaison, ou il y a chute, ou il y a maldon qui fait que tout est rebattu et tout redémarre. Et c'est ça qui intéresse les jeunes. On vient pour voir les stars, on vient pour voir du sang, parce que Roubaix, c'est de la dramatique, c'est des chutes, c'est des blessures, c'est des mecs qui sont évacués dans l'ambulance, c'est des mecs qui chutent, qui sont dégueulasses. Il y a toute une ambiance, une
dramaturgie autour.
Et on attend la pluie aussi.
Un décorum qui fait que c'est particulier. En plus, ce qui fait la différence aussi, il faut le noter, c'est la façon dont la course est filmée. Aujourd'hui, on a des drones sur certains secteurs de course qui font que ça rend on perçoit la vitesse, on perçoit le danger, on perçoit l'ambiance et le climat de la course. Et quand on va être dans Arenberg, il va y avoir des drones, il va y avoir des caméras disposées pour nous faire vivre et nous faire ressentir ce qui se passe sur les pavés. Moi, dans ma voiture, je vais avoir un caméraman de France Télévisions qui va être secoué toute la journée sur les pavés. Donc les images qu'il va retranscrire ou retransmettre, à l'intérieur de la voiture, c'est encore autre chose que ce qu'on voit sur un écran géant.
Alors, on va continuer de parler de tout ça avec vous, d'ailleurs, au 32-16. Je sais pas si tu lui as montré les images de ta victoire à ton fiston. Il y a 40 ans, on le rappelle, Marc, ça lui fait pas plaisir.
Il y en a eu deux de victoires. Hein,
Voilà, 40 ans la première, et puis ensuite il avait remporté aussi en 91 Paris-Roubaix. Et c'est pour ça qu'on aime t'écouter ce matin pour parler de cette course, cette classique. On va continuer d'en parler, bien sûr, avec vous, messieurs. Et donc, avec vous qui nous écoutez au 32-16, restez avec nous, on vient tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 9h30, vous écoutez les grandes gueules du sport avec ce matin Marc Madiot, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Denis Charvet et cette équipe de jeunes vous accompagne, et notamment dans un instant pour parler du zapping des GG au programme Monaco-Marseille, affiche de la 29e journée de Ligue 1. On parlera aussi de Léon Marchand, mais d'abord la suite de notre débat. Ce Paris-Roubaix 2025 est-il plus excitant que le Tour de France? Christophe Cessieux, n'oubliez pas, vous fera vivre cet événement demain en direct sur RMC, donc vraiment à ne pas rater. Quelques petits messages sur l'appli RMC Direct Studio. Emmanuel nous dit Paris-Roubaix, la plus grande classique d'un jour avec Milan-San Remo, certes, mais de là à la comparer au Tour de France, certainement pas. Le Tour reste la plus grande course au monde et sans doute la plus difficile épreuve sportive au monde.
Non, mais il a raison.
Et Kevin va peut-être aller dans ton sens. Il est avec nous au 32-16. Bonjour Kevin.
Bonjour les grandes gueules.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Comment tu te situes justement par rapport à ce débat?
Bon, je vais essayer de parler assez fort, parce que vu l'âge moyen autour de la table,
on va régler nos sonotones. Vas-y.
Bon, bravo, alors, ouais, je vois Denis. En fait, je faisais la comparaison entre un excellent film et une excellente série. Et en fait, moi, ce que j'aime dans le Tour de France, c'est aussi toutes les petites histoires qu'il y a derrière la grande histoire. Alors, bien sûr, on a toujours le fil rouge avec la lutte pour le classement général et, comme l'année dernière, on a un suspense qui est rompu assez vite. Mais on a toujours derrière des petites histoires qu'on a le temps, justement, de raconter. On a le maillot jaune de Romain Bardet, on a la magnifique étape d'Anthony Kurgis sur les chemins blancs de Troyes. À chaque étape, en fait, chaque jour, il va pouvoir se passer quelque chose. Et ça, sur Paris-Roubaix, on va être centré au niveau de la retransmission, que ça soit radio ou télé. Je pense pas que Christophe va avoir le temps cet après-midi, demain après-midi, pardon, de nous raconter ce qui se passe au-delà de la 50e place sur un coureur en particulier.
Et c'est normal. Au-delà de la 3e,
c'est pas du tout simple. Ouais. Et ça fait partie aussi du charme du Tour de France. Et puis, moi, je vais pas faire la sieste demain après-midi. Et ça, c'est même un problème, parce que quel plaisir dans le Tour de France de s'endormir à 14h tranquillement, d'entendre vaguement dans l'oreillette Christophe Cessieux nous annoncer la grande bagarre pendant 2 heures, et de se réveiller, d'entrouvrir un œil toutes les demi-heures pour constater qu'il s'est toujours rien passé, et de se réveiller en pleine forme à 16h30 pour la dernière montée.
Bon.
Donc,
bravo. Voilà.
Non, mais il a raison. Mais, hein, c'est vrai que c'est pour aller dans ton sens là pour le coup.
Puis les Français ils brillent au Tour de France alors qu'ils ne brillaient jamais à part il y a 40 ans. Non mais c'est la vérité. Tu l'as.
Merci de le rappeler.
Non mais je veux dire par là c'est que t'as jamais de surprise. Tu pousses pas derrière un Français malheureusement. Ah, alors qu'au Tour de France première étape Bardet il prend le maillot jaune. T'as plein d'histoires comme ça que les petites histoires.
Mais l'histoire comme il est. Bien sa comparaison entre un film et une série. Exactement ça. Sauf que le film de Paris-Roubaix s'inscrit là aussi dans une série. Comme on disait tout à l'heure,
c'est le troisième épisode.
C'est une mini-série. Tu as eu Milan San Remo avec la victoire de Vanderpool. Ouais. Incroyable.
Parce que t'as deux coureurs qui se tirent la bourre.
C'est ça.
Amicalement
vôtre, c'était quoi? C'était Starsky et Hutch, quoi? C'est deux personnages qui se tirent la bourre, qui sont. Ah oui, je fais les références aux séries de notre génération. C'est sûr que dans Game of Thrones, il y en a tellement que.
Tu peux remonter amicalement vôtre.
Ouais, exactement, mais c'est ce que j'ai dit. Maintenant. Les mystères de l'Ouest, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle?
La croisière s'amuse, c'est
la croisière s'amuse.
Belle et Sébastien, enfin bref, voilà.
Belle et Sébastien,
je comprends ce qu'il dit, mais en même temps, on a tant de souvenirs dans la tête en fait du Tour que c'est difficile de comparer ça à une classique. Moi, c'est un peu mon.
Parce que on a une culture exacerbée du Tour de France par rapport aux autres épreuves.
Oui, pourquoi, Marc? Parce qu'il y a une histoire.
Oui, il y a une histoire, mais dans le temps qui avance, les classiques et les courses comme Roubaix ou San Remo ou les Flandres vont monter dans la hiérarchie.
Ce qui veut dire, Marc, là, je parle en tant que directeur sportif. Est-ce qu'on va justement plus pousser les coureurs à aller remporter ces classiques? Est-ce que ça va être plus intéressant pour un coureur de briller sur une classique que lors d'un grand tour?
Pas plus intéressant, mais c'est...
aussi intéressant. Ça a une influence. Je ne veux pas parler à la place des sponsors de mon équipe, mais je pense que ce qui se passe ce week-end autour des Flandres ou à Paris-Roubaix les intéresse au plus haut point, parce qu'ils ne sont pas fous, ils regardent aussi les audiences le lundi matin. Sait que des événements comme celui de demain, ça va faire un carton. Ça va faire un carton parce que
aussi le momentum est exceptionnel.
Oui, non, mais bien sûr. Mais bien sûr, qu'est-ce qui va intéresser les sponsors à lundi matin? C'est est-ce qu'on nous a vu? Est-ce qu'on a existé? Est-ce qu'on a été à l'écran?
Oui, t'as raison.
C'est la même chose pour le Tour, Marc.
Oui, mais c'est pas la même.
Pour le Tour de France, tes sponsors, ils veulent que tes joues.
Évidemment.
Montre le maillot.
Évidemment. Mais le Tour, c'est quelque chose de plus lent. Dans son évolution, parce que ça s'étale sur 3 semaines. Par exemple, on a beaucoup parlé de Netflix sur le Tour, mais je pense que Netflix serait beaucoup plus adapté
d'ailleurs ils arrêtent
à la retransmission
ce serait beaucoup plus adapté au classique.
Pour moi Netflix conviendrait mieux sur les classiques que sur le Tour, parce que dans le Tour en fait quand vous êtes dans le Tour de France, et j'en ai fait quelques-uns Hormis si vous avez une performance ou un gros pépin, ce qu'on espère jamais, il se passe rien. Parce qu'en fait, chaque jour, on répète les mêmes actions. Mmh. Moi, dans mon boulot, dans le Tour de France, je répète chaque jour la même chose.
C'est pas vrai.
On n'a pas grand-chose à raconter.
Oui, mais quand il y a un duel, par exemple, quand à l'époque de Pogacar, Vingegaard,
oui, ça fait deux équipes. Tu fais pas. Oui, mais des saisons et des saisons de Netflix avec deux équipes.
Oui, je suis d'accord. Mais tu peux avoir demain, tu peux avoir une équipe qui se révèle ou un coureur qui se révèle.
Tu peux faire un documentaire, un 52, un one shot sur Paris-Roubaix.
Et tu pourrais faire un one shot ou tu peux faire
toute la saison des classiques.
La saison des classiques. Voilà.
Mais Marc, là, je suis pas d'accord avec toi.
Ça ressemblerait davantage à ce qu'on vit ou ce que l'on voit sur les grands prix. Mais on serait un peu dans le même schéma de construction.
Mais pour en parler de série, imagine qu'un coureur se révèle. Et que tu as la naissance d'un coureur, c'est formidable, ça arrive.
Oui, bien sûr, heureusement d'ailleurs.
Oui, mais c'est le propre des séries, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux avoir quelque chose d'inattendu avec un personnage, avec un caractère. Pogacar au début, par exemple. Mmh. Pogacar, on l'a pas vu arriver.
Donc, si on abandonne un moment la fiction, on revient au sport. On en a parlé tout à l'heure, mais à mon avis pas assez. Cette course, ce Paris-Roubaix là, celui-ci, il se résume pas à un duel Pogacar.
Non, en plus,
parce qu'ils sont nombreux à pouvoir gagner. Oui. À pouvoir gagner cette course. Parce qu'il y a une incertitude terrible sur cette course comme nulle part ailleurs. Les crevaisons, les défaillances, les chutes.
Non, mais tout est possible, on le sait. Mais
vous êtes tous d'accord avec moi que même Filippo Ganna, il peut gagner demain.
Bien sûr, oui.
Parce qu'il y a une densité de coureurs d'un niveau exceptionnel.
Tu dis ça, on a dit tout le monde peut gagner et c'est Pogacar qui a gagné.
Tour des Flandres,
tout le monde pouvait gagner.
À la différence du Tour des Flandres, c'est que là, Pogacar n'est pas du tout favori.
D'accord. Ce qui rend encore plus intéressant cette course.
Et je pense qu'un Pedersen,
Pogacar,
un Ganna,
c'est l'empêcheur tourné en rond. Hein.
C'est
demain, c'est l'empêcheur tourné en rond, Pogacar. Oui.
Mais c'est pas le favori, Marc.
Je le mets à peu près au même niveau que Van Der Poel. Je mets Van Der Poel un tout petit peu devant, mais je mets Pogacar juste derrière.
Mon avis de dire oui, le Paris-Roubaix est plus excitant que le Tour de France. Voilà, je voudrais te dire simplement une chose. Mardi matin, je te promets que le Tour, c'est important pour moi et plus important que Paris-Roubaix. Mais pas avant.
Ah, bah oui, d'accord. Mais bon, au momentum, toi. T'es dans le momentum.
Oui, j'ai envie de kiffer.
Mais moi aussi, je vais le regarder demain.
J'ai envie de manger des fraises et non plus des pommes et des oranges.
Des fraises.
Donc j'ai envie
d'où.
De regarder Paris-Roubaix parce que c'est le moment de le regarder.
Justement, petit tour de table pour vous. Votre favori pour demain, évidemment, on va en reparler demain dans les grandes gueules du sport.
Pogacar, Denis, parce que le fait qu'il soit en forme et qu'il ait décidé de lui-même de venir, malgré son directeur sportif, l'avis du directeur sportif, je me dis que ce mec, il est hors norme. Voilà. Après, je peux me tromper, mais je me dis que ce mec, il est pas fait comme les autres.
Christophe.
S'il a récupéré Van Der Poel, pour moi, est le favori logique pour un triplé. C'est rare, hein, un triplé dans Paris-Roubaix, un gars qui gagne trois fois de suite. Il y a eu très peu de cas dans l'histoire.
Pascal ?
Eh bien, moi, voyez, mon vœu, c'est Wout van Aert.
Tu vas faire plaisir à Marc.
Ouais. Et il va pas mal.
Autour des Flandres, il a été très très bon. Hein. Ouais. Attention, donc j'espère qu'il est encore plus en forme.
Et toi, Marc ?
Stephen Kung.
Ah ouais, je veux dire Kung. Stephen Kung, si la course se déroule bien pour lui et qu'il est dans le final,
attention,
avec l'alignement des planètes, ça peut le faire.
Mais j'ai une question pour
j'ai juste demandé à Kevin aussi son petit favori, parce qu'il est toujours avec nous, Kevin. Il va écouter Christophe Cessieux et Jérôme Coppel demain sur RMC à partir de 15h. Kevin, si t'as un favori à donner.
Eh ben moi je vais dire Mats Pedersen un scénario où il s'accroche à Pogacar et Van Der Poel, où il finit à 3 sur le Vélodrome et c'est il règle les deux autres au sprint, c'est lui qui a le plus avec quelqu'un.
Parfait, Kevin.
Non, moi je voulais poser une question à Marc. Est-ce qu'ils ont les coureurs ont laissé beaucoup de force dans le Tour de Flandre?
Non, Tour des Flandres, c'était dimanche dernier. Il y a une semaine de récup. C'est une montée en pression. Les gars, ils sont prêts pour toute la période des classiques. Il va de Gent-Wevelgem en passant par
Saint-Rémy. Donc, ils laissent pas beaucoup de force, en fait.
Non, t'as des temps de récup. Ce qui est intéressant et ce qui est sympa dans cette période des classiques, c'est qu'on court on peut courir tous les 2-3 jours. Mm. Et on peut faire l'impasse plus ou moins sur l'une ou l'autre des épreuves et se focaliser sur celle que l'on préfère ou sur celle où on a le plus de chances de s'exprimer. Donc, c'est le meilleur plan. Enfin, c'est ça, quelque part, le calendrier au fil du temps, c'est bien construit et c'est bien aménagé. On a une montée en pression sur les courses flamandes qui commence avec l'ouverture au Nieuwsblad et qui va se terminer demain avec Paris-Roubaix. Mais tous les week-ends, on a une relance de compétition qui fait qu'il y a, une saveur particulière qui s'installe pendant toutes ces semaines en Belgique. L'intérêt de toute cette période, c'est que par exemple, les équipes vivent en Belgique pendant 3 semaines. On a de l'encadrement et on a des coureurs qui font des navettes en permanence avec la Belgique. Et le centre névralgique du cyclisme, c'est la Belgique pendant toute cette période. Il y a des belles courses ailleurs en Espagne, mais on n'en parle quasiment pas parce que tout est avalé par
l'arrivée du Vélodrome de Roubaix. On est à 50 km de l'arrivée du Tour des Flandres dimanche dernier. Tu vois,
Et tu y seras demain, donc on l'a dit.
Bah oui, bien sûr.
Kevin,
Marc aussi, mais
merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu écouteras donc demain, comme tous ceux qui nous écoutent, tous les passionnés de sport vont se passionner pour ce Paris-Roubaix, on l'a bien compris. En direct de Roubaix à partir de 15h.